Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance Française, théâtre originel du masque et la plume, pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité littéraire avec les mères et Père Noël de la critique. J'ai nommé Olivia de Lamberterie, duel avec Nelly Capriélian des Inrecuptibles, Jean-Claude Raspien-Jas de La Croix, Arnaud Vivian de Charles, de Transfuge, de Regard, pour parler ce soir notamment de Patti Smith, de Sophie des Déserts, c'est-à-dire de Jean d'Ormesson, de Lynn Ullmann, de Pascal Bruckner, d'Alain Mabancou. Il y aura vos conseils évidemment en fin d'émission pour des livres que vous mettrez peut-être sous le sapin dans le courrier de la semaine. Eh bien, Bruno Redelet était choqué par toi, Nelly, qui établissait un lien entre la beauté de Zadie Smith et son succès. Que n'aurait-on pas dit si Eric Neuhoff avait prononcé les mêmes mots ? Je vous aime trop cependant pour vous en vouloir, vous qui me faites échapper à la tristesse du dimanche soir, bien résumé dans ce vers du poète Jean de la ville de Miremont, qui m'est cher. Quel dommage, mon vieux, que demain soit lundi. Jean-Philippe de Bratislava nous parle de leurs enfants après eux et il s'étonne que pas un seul critique du masque n'ait parlé du style du prix Goncourt de cette année, Nicolas Mathieu. De points compassés, sans réelle créativité scolaire. Et ça s'arrange pas avec Antoine Barillé, qui n'est pas plus tendre suite à vos conseils. J'ai lu le roman de Nicolas Mathieu, donc le prix Goncourt. Comment les linguistes que vous êtes n'ont-ils pas frémi en lisant page 229 ? On a de sacrés lecteurs quand même. Ces ados n'allaient tout de même pas jusqu'en Hollande, le pays, hein, pas le président, jusqu'en Hollande en mobylette. En mobylette, nous dit Antoine Barillé. Pourquoi pas en vélo ou en cheval, tant qu'on y est. Prix Goncourt, oui. Prix Becherel, non. Et un flot de messages courroucés, mais alors plein. Je peux pas tout lire après les propos peu amènes du masque et la plume sur le meurtre du commandeur de Murakami. Michel Moreau, qui est guide de haute montagne, s'exclame « Heureusement qu'il y a Patricia, une sainte, pour dire à la France qui aime lire que ce livre de Murakami est extraordinaire. Ce n'est pas la première fois que vous manquez un livre. Je suis presque sûr que si vous aviez critiqué « Cent ans de solitude » à sa sortie, vous l'auriez assassiné. Pour Anne-Marie Marc du Luxembourg, le livre de Murakami est de la littérature fantastique. Il faut s'y plonger pour l'apprécier pleinement en lisant dans plus de 5 langues, bravo Anne-Marie Margue du Luxembourg. Je me permets aussi de penser que les traductions françaises sont rarement les meilleures. Lire Murakami en allemand est un pur plaisir. Donc vous avez compris, le prochain, vous allez me le lire en allemand.
Je te l'offre pour Noël.
Marion Martin fulmine. C'est avec fureur que je m'interroge sur la légitimité, de vos critiques, étant donné qu'aucun d'entre vous, sauf la mirifique Patricia Martin, ne s'est donné la peine d'essayer de comprendre un livre, somme toute, assez simple. Bernadette, qui nous écoute du fond de son canapé et de sa vallée alpine, tiens, c'est un zogma, nous rappelle à juste titre que Murakami ne fait pas du jogging, ça c'est pour moi, c'est vrai, je m'étais trompé, mais du marathon. Voilà.
Enfin, il court.
Et elle trouve nos critiques bien sévères et injustes pour le meurtre du commandeur. Seule Delphine Gourgue, qui est chroniqueuse pour la librairie française de Shanghai, qui s'appelle L'Arbre du Voyageur, on est écouté partout, hein, approuve Le Masque et la Plume concernant Murakami. Comme plusieurs d'entre vous, je n'ai jamais pu finir ces pavés à succès. En revanche, je vous conseille, mais on l'avait conseillé, un de ces petits livres trop méconnus, autobiographie de l'auteur en coureur de fond, un véritable bijou, de quoi vous réconcilier avec cet auteur. Et on en avait dit d'ailleurs à l'époque du bien au masque. Et on commence, si vous le voulez bien, avec Jean d'Ormesson. Je parie qu'il va y avoir une tonne de Jean d'Ormesson sous le sapin de Noël, un an après sa mort. Voici que paraissent un inédit qui s'appelle « Un hosanna sans fin » chez sa fille Héloïse d'Ormesson, qui est son ultime écrit, où on peut lire des choses passionnantes, comme « La science elle-même ne peut pas péter plus haut que son cul », mais également le deuxième volume de la Pléiade, qui réunit 6 titres, dont « Le vagabond qui passe sous une ombrelle trouée », et je dirais malgré tout que cette vie fut belle, et enfin une biographie qui s'appelle « Le dernier roi soleil » signée Sophie des déserts, coéditée par Grasset et Fayard, une biographie qui déplaît fortement à la famille et que j'ai, pour ma part, trouvée épatante, tout en étant attendrie par Jean d'Ormesson, qu'il a reçu pendant les dernières années de sa vie à Neuilly comme en Corse. Sophie des déserts ne cache rien de sa vie sentimentale, comment dire, pour le moins compliquée, de sa vanité d'auteur, il supportait pas les critiques négatives, ou de sa conception très molle du journalisme, ainsi de ce reportage au Rwanda en 1994, où après avoir constaté, des visous, le génocide des Tutsis, Jean d'Ormesson écrivait dans le Figaro, ouvrez les guillemets, s'il faut tirer une leçon du Rwanda, c'est que les hommes sont tous coupables et qu'ils sont tous innocents. Olivia.
Oh ben j'ai trouvé ça épatant aussi. Et là, tu viens de citer uniquement les passages négatifs, parce que ce que je trouve de bien dans cette biographie très intime, c'est qu'elle est faite avec beaucoup d'élégance. Un des nœuds du livre, c'est la vie sentimentale de Jean Daud, qui était donc bigame.
Oui, enfin, plus que bigame.
Oui, mais enfin, il est polygame.
Tu veux dire trigame enfin,
oui, non, polygame.
Il était surtout bigame. Et je trouve que la manière dont elle le raconte est très élégante. Il avait d'abord déjà fendu l'armure dans ses mémoires à lui. Et là, bon, ben, elle met le pied dans la porte. Elle raconte que un jour, Jean d'Ormesson l'appelle en lui disant « ça serait bien que vous veniez ce soir à une conférence du Figaro ». Elle y va. La conférence est complètement ratée. Jean d'Ormesson est pas à son meilleur. Et elle s'aperçoit qu'au premier rang, il y a 2 femmes qui se ressemblent beaucoup, qui sont ensemble. Et à la fin de la conférence, Jean d'Ormesson les lui présente. Et il y a donc son épouse et sa deuxième femme, sa deuxième épouse, je ne sais pas comment on peut dire.
Et ce qui est assez... Non, parce qu'il l'a pas épousé.
Non, sa deuxième femme, voilà, son grand amour. Et ce qui est assez mignon, c'est que les 2 femmes se précipitent sur Jean d'Ormesson. Il y en a une qui lui dit, ben, est-ce que tu n'es pas trop fatigué? Et puis l'autre qui le prend par le bras et qui lui dit, viens mon chéri. Et c'est une sorte de petit résumé de la vie de Jean d'Ormesson. Mais...
Enfin, il n'y a pas que ça dans le livre quand même.
Mais très très bien raconté, je trouve. Oui. Après, ça se lit en fait comme un roman de Françoise Sagan. Bah oui, oui. Si, un peu, oui, mais... parce que c'est l'histoire d'un homme qui n'aime que le soleil, qui n'aime que bronzer, qui n'aime que le luxe, et qui va s'inventer grâce à 4 femmes. Il y a d'abord sa mère, qui est un personnage génial, chez qui il habite jusqu'à ses 40 ans.
Tu vas pas nous raconter toute la vie de Jean d'Ormesson, parce qu'il est mort très âgé.
Mais il y a une petite anecdote sur sa mère, absolument drôlissime, où Sophie des déserts raconte qu'un jour, à une soirée costumée, il avait mis une perruque et il avait emprunté la robe de chambre de sa mère et que c'était le sosie de sa mère. Et puis après, il y a sa femme que je trouve formidable parce que le jour du mariage est incroyable. Jean d'Ormesson ne veut pas y aller. Elle s'est acheté un manteau jaune et vraiment, on a l'impression qu'il n'est pas très heureux. Après le jour de l'accouchement de sa femme, il veut pas y aller non plus. En fait, c'est un homme.
Ça y est, elle va nous raconter toute la vie de Jean Daud.
Enfin bref, bon, moi je trouve que c'est.
Tu as aimé le livre ou pas ?
Épatant. On découvre un homme humain, donc je trouve que finalement, il n'en sort pas.
Qui avait aussi ses faiblesses. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a une sorte d'omerta autour de ce livre.
Je ne sais pas. Parce que je trouve qu'elle raconte ça.
Certains journalistes de radio et de télé étant presque interdits de citer l'existence de ce livre. Oui, absolument. Arnaud.
Non. C'est pas parce que vous rendez quelqu'un plus humain que vous le faites tomber de son piédestal. Hein, je trouve pas.
C'est un livre tout à fait agréable à lire. Donc cette journaliste a l'habitude de faire des portraits dans Vanity Fair. Il y a un vrai savoir-faire.
Elle est journaliste à Vanity Fair.
Elle est spécialisée dans le portrait. Elle a un vrai savoir-faire qui arrive, parce qu'un portrait c'est assez court, même dans Vanity Fair où ils sont longs. Malgré tout, ça fait pas un livre. Mais là, ça fait vraiment un livre. Elle raconte très bien comment finalement cette opération s'est faite. Jean d'Ormesson lui a dit oui, il l'a choisi comme biographe. Alors évidemment, certains ricanent en disant évidemment le physique de la personne n'est pas indifférent au choix de
elle est très jolie.
De Jean d'Ormesson, etc. Voilà. Oui, mais
d'habitude c'est moi qui dis ces
oui.
choses.
Non mais non, là c'est la rumeur parisienne. Oui, je l'ai lu sous la plume de Bernard oui, Pivot dans le JDD en l'occurrence. Donc
il y a des propos voilà. extrêmement misogynes. C'est la première fois qu'on parle du physique d'une biographe.
Voilà. Donc il a fait, et je crois que Jean d'Ormesson a fait un excellent choix en l'occurrence, car le livre il est d'une dignité, je trouve, absolue concernant Jean d'Ormesson. Il est sans complaisance, évidemment. Il a un rapport à la vérité qui est quand même très fort, c'est-à-dire qu'elle cherche la vérité et il s'engage d'une certaine manière à la lui dire lorsqu'il l'emmène à sa garçonnière près du Palais Royal. C'est vraiment lui qui décide. C'est une scène très forte où il va lui raconter un épisode d'émancipation. Ce qui est très intéressant, je trouve, dans ce livre, c'est au-delà de Jean d'Ormesson, c'est le portrait quand même d'une classe. Alors d'une classe dans un moment précis.
D'une certaine France.
D'une certaine France et d'une classe sociale évidemment extrêmement aisée. On n'est plus dans la bourgeoisie, là on est quasiment dans l'aristocratie, même si elle n'est pas forcément nobiliaire. Et ce qu'on découvre, c'est que cette aristocratie a pour le moins des mœurs très étranges. Ils sont tous quasiment dans le polyamour, parce que il s'agit pas simplement de Jean d'Ormesson, c'est tous, hein, c'est-à-dire aussi bien Maurice Reims, enfin tous les gens qui traversent ce livre ont des relations qui ne sont pas des simples relations de couple, mais qui sont vraiment ce qu'on peut appeler le polyamour, qui est une organisation qui d'ailleurs fonctionne très très bien.
Et dans ce milieu-là.
Pour eux, ils en ont l'air extrêmement satisfaits.
En plus, il faut beaucoup
d'argent.
Il n'y
a pas énormément de jalousie, alors que quand même, tout le monde se retrouve, qui, à l'église, etc. Il y a une scène primitive, si l'on veut, c'est que, donc, Jean d'Ormesson va coucher avec la femme de son cousin, Germain. Et donc là, si vous voulez, il y a un brouille dans la famille. Il y a un moment de tension, parce que là, quand même, il couche avec la jeune épouse de son cousin Germain dans le château de famille, alors qu'il est supposé travailler. Bon, pas vraiment
c'est
non
pas
plus.
Ça,
parce
la
que Jean d'Ormesson travaillait. Là, parce que, vous voyez, l'idéologie du travail, portée en général par la droite et le Figaro, dont il a été le directeur. Là, vous voyez quand même que l'idéologie du travail ne l'a jamais concerné, Jean d'Ormesson. Il a pu l'écrire dans pas mal d'éditoriaux, la priorité de la France, ça doit être le travail, le plein emploi, etc. Il a pu l'écrire, il ne l'a jamais pensé pour lui-même. Il a pensé
c'est
beaucoup de choses,
vrai.
Mais pas ça. Et donc ce livre est remarquable pour comprendre la France. C'est pas du tout un livre sur Jean d'Ormesson, c'est un livre sur la France, et en tant que tel, tout le monde devrait le lire.
Nelly ?
Bah oui, c'est là où elle est très très forte, Sophie Desdéserts. C'est qu'à la fois, elle est pleine de tendresse pour Jean d'Ormesson, elle nous fait pénétrer dans sa maison à Neuilly, et on a l'impression de rentrer chez les
et
cocottes,
Corse,
chez les
Corse,
cocottes de Proust. Enfin, c'est un monde complètement englouti. Enfin, en tout cas, pour moi, j'y ai eu accès un peu par ce livre. Et en Corse. Et en même temps, elle balance quand même certaines choses. Enfin, en tout cas, elle dit quand même certaines choses qui, moi, ne me... Enfin, ça n'est pas du tout pour moi le polyamour, le fait qu'il soit bigame. Je le savais, alors je ne connais pas du tout Jean d'Ormesson. Enfin, il y a beaucoup de journalistes comme ça. Enfin, pour moi, c'était quelque chose de public. D'ailleurs, je pensais pas que... Je savais même pas qu'il y avait une polémique autour de ça. Moi, tout ça ne m'intéresse pas vraiment. Moi, ce qui m'a rappelé pourquoi, à partir du moment où je suis arrivée aux Inrocks, je me suis dit qu'on ne traiterait pas Jean d'Ormesson. J'ai été assez
Tu parles
assez
de quoi,
radicale.
Des livres de Jean d'Ormesson?
Des livres de Jean d'Ormesson.
Pourquoi?
Qui, par ailleurs, je suis comme Sophie Desdéserts. Je le trouve charmant, je l'adore. Enfin, voilà, je l'ai jamais rencontré. Je l'ai eu à la radio. Il a accepté, un été où je faisais de la radio, du fin fond de la Suisse, à 90 ans, de répondre sur Jean de La Fontaine. Il est charmantissime et j'aime sa philosophie de la vie. Pourquoi ce livre me l'a rappelé? C'est parce que, comme disait Arnaud, je trouve que ça représente une certaine droite et une certaine France qui suinte le népotisme, qui est « on s'entraide entre nous, on a des réseaux », tout ça mêle quand même des grandes fortunes, et la France du travail n'existe plus pour eux, mais la France du mérite non plus. C'est-à-dire que Jean d'Ormesson a été quand même nommé à la tête du Figaro, m'a rappelé le livre de Sophie Desdéserts, parce que son beau-père, Ferdinand Béguet, était actionnaire du Figaro. Son meilleur ami, Jean Prouveau, était propriétaire du Figaro. Et tous les deux, au fond, décident que le gendre de Ferdinand, il lui faut un boulot, on va le nommer à la tête du Figaro. Et Jean d'Ormesson, à un moment donné, ensuite il partira, ça par contre je l'ai appris dans le livre, parce que j'ai pas non plus suivi toute la carrière de Jean d'Ormesson, surtout qu'à l'époque je devais avoir, je sais pas, 6 ans, quelque chose comme ça. Bon, finalement, Jean d'Ormesson soutient aussi Hersant, qui est à mon sens insoutenable. D'ailleurs, il y a cette anecdote que rappelle Sophie Desdéserts, qui est Bernard Pivot, qui quitte le Figaro à ce moment-là, avec des indemnités, contre Jean d'Ormesson, se fait construire une piscine dans sa maison, qu'il appelle Jean d'Ormesson. Bon, l'autre s'est marré. Bah, mais, et tout ça, alors on dit aussi, il y a l'Académie. Enfin, voilà, je peux.
Petite chose quand même.
Il y a tout ça, et il y a Paul Morand. Il y a quand même Paul Morand, qui est quand même un antisémite notoire, qui est quand même son ami. Enfin, tout ça, je trouve que c'est le portrait. Non, mais elle fait le portrait d'une France moisie, avec quand même quelqu'un, qu'encore une fois, dont j'adore la frivolité, j'adore l'humour, et j'adore aussi la profondeur métaphysique de Jean d'Ormesson, et je le dis vraiment sans ironie. Et voilà pourquoi je trouve que cette biographie, non seulement il faut la lire, mais je trouve que le vrai scandale, il est là, dans la vie de Jean d'Ormesson. C'était pas qu'il ait un autre grand amour dans sa vie.
Encore une fois, vous ne parlez pas de l'écrivain Jean d'Ormesson, c'est bizarre.
Non, mais parce que ce n'est pas tellement un livre sur son œuvre.
Ah, non, mais elle parle de l'écrivain quand même, et de ses livres aussi.
Oui, mais pas beaucoup. Bon.
Jean-Claude.
Pas vraiment. Et puis en plus, elle n'est pas très tendre sur la carrière littéraire de Jean d'Ormesson, qui d'ailleurs n'était pas d'une grande lucidité sur lui-même quand même. Bon, il est passé 26 fois apostrophe, donc ça n'aide pas non plus à être lucide. Donc, il pensait même qu'il pourrait avoir le prix Nobel, c'est-à-dire le niveau de lucidité. Et, bon, il a quand même eu la Pléiade de son vivant. Dans ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'on sort des portraits convenus éternels sur Jean d'Ormesson, on accède un petit peu à la vérité du personnage, et c'est là qu'il devient intéressant, c'est quand enfin on a un peu la vérité, parce que c'est quand même quelqu'un qui a su tellement bien façonner sa légende, et il avait des gens pour la façonner, mais c'était quand même le meilleur pour le faire, et comme il dit dans le livre, la mystification c'est très sérieux, et il y a mis beaucoup de lui-même pour mystifier. Alors c'est un livre qui est tendre, c'est un livre qui est caustique, mais c'est un livre intrigué, c'est-à-dire que sa biographe, elle est intriguée par le personnage. Et qu'est-ce qu'on découvre? Que c'est un spécimen d'autrefois. C'est une relique d'un autre siècle. Alors, tu parlais du travail, ça a atteint des sommets extraordinaires. C'est-à-dire qu'il est tellement d'autrefois que, par exemple, son petit déjeuner, c'est de l'ovomaltine. Qui, aujourd'hui, prend de l'ovomaltine? Mais attendez, avec des traditions, c'est servi le matin, c'est pas n'importe quelle heure.
Ça a été servi par un majordome.
Qui est en gants blancs et qui s'incline. Si c'est pas une relique d'autrefois.
En même temps, l'ovomaltine sans les gants blancs, ça le fait pas vraiment.
Oui,
dans bleu,
c'est sûr, c'est sûr. Alors, c'est
en
vrai
plus
que.
Pour quelqu'un qui vit de temps en temps en Suisse, ça va.
Oui, c'est... alors, il est toujours servi par des domestiques. Il ne sait strictement rien faire. Il ne sait, la biographe précise qu'il ne sait même pas ouvrir un pot de confiture. D'ailleurs, ça, n'importe qui, quand même, sait ouvrir un pot de confiture. Lui, il ne sait pas le faire.
Mais il avait de l'arthrose à la fin. C'est
alors, si, non, on est un peu injuste. Il savait faire une chose. Et la biographe le note et le remarque à plusieurs reprises. Il savait assaisonner tout seul. Son jus de carotte. Alors en fait, il dépendait de tout le monde. Hein, et il a beaucoup, beaucoup...
Je crois que vous avez vu dans ce livre quand même ce qui est le plus important. Vous avez pris les pages...
Si on pouvait dire quelque chose, par exemple aussi son maniérisme, qu'on a beaucoup moqué sans savoir s'il était sincère, s'il le cultivait, il y a quand même cette réplique absolument magnifique quand son médecin lui annonce son cancer, il dit « c'est honteux ». Alors, c'est à la fois...
Ça, c'est beau, c'est plutôt
c'est
beau,
très
je
beau.
Trouve ça.
Mais non, mais c'est très beau, parce que
ça, c'est beau, ça.
C'est une réaction d'hédoniste, et en même temps, c'est un mot d'esprit qui, évidemment, prête à sourire. Si on devait résumer notre ami... Alors, j'aimerais quand même dire que, dès les années 50, il a des critiques qui vont pas le lâcher. Il paraît que tu es cité, il t'en fait partie. Mais Bernard Franck était un de ses ennemis préférés. Et Bernard Franck, dans les années 50, écrit ceci. D'Ormesson, on dirait un petit chien qui jappe à tort et à travers. Merci mon Dieu pour le soleil, la vie, la plage, le sable chaud, les femmes. Merci mon Dieu d'avoir songé à me créer. Merci, merci, merci. N'empêche que c'est cette ritournelle qu'on a entendue tout le temps. Alors si je devais résumer une chose...
Mais c'est vrai qu'il était, contrairement à ce qu'on dit, très très rancunier. Moi, j'ai eu le malheur de l'égratigner dans un journal, et ça, il m'en a voulu toute sa vie. Comme quoi, c'était pas non plus l'âme noble qu'on a toujours dit.
Si je devais résumer en gros ce qu'il a été, avec ses façons de se masquer et tout ça... En gros, d'Ormesson, c'était le masque et la plume.
C'est bien, bravo. Ça, à mon avis, c'était préparé, ça. Hein. Le dernier roi soleil, c'est Sophie Desdéserts, et c'est donc chez Grasset Fayard. On va aller évidemment un peu plus vite pour les autres livres. Si je voulais qu'on dise un mot quand même, puisqu'on est dans les textes biographiques ou autobiographiques, le registre de l'inquiétude, qui est traduit chez Actes Sud par Céline Roman-Monnier, et c'est un récit signé Lynn Ullmann, la fille de l'actrice Liv Ullmann et du cinéaste Ingmar Bergman, dont elle fait ici le portrait d'un homme cloîtré sur son île Faro, où il s'était installé, je vous le rappelle, en 65, qui vivait les fenêtres closes. Il avait peur des courants d'air, au milieu de ses livres, de ses films. Alors voilà. Voilà encore un polygame, de toutes ces femmes et de sa très nombreuse progéniture. Autoportrait aussi de Lynn Ullman elle-même, née hors mariage, donc considérée comme une bâtarde en pays protestant, ce qui valait d'ailleurs à sa mère, Liv Ullman, de recevoir des lettres anonymes du genre « Ta gamine va brûler en enfer ». Voilà, à l'origine de ce registre de l'inquiétude, il y avait le projet qu'avaient eu le père et la fille de faire ensemble un livre d'entretien, et puis la mémoire de Bergman avait été malheureusement l'avait empêché de faire ce livre. Et on apprend aussi que Bergman, après avoir regardé en 2005 les funérailles de Jean-Paul II à la télé, avait aussitôt commandé au menuisier de Lille le même cercueil simple que celui du pape. Et il s'est éteint, Bergman, je vous le rappelle, sur son île en 2007. Nelly.
Alors, à la fois intéressant pour le portrait de Bergman qui est un peu en fragments. Moi, je veux dire, ce qui m'a un peu dérouté, c'est la construction du livre qui est, oui. Dieu sait que j'adore les constructions expérimentales compliquées.
C'est pas très linéaire, hein.
Mais alors là, ça part un peu dans tous les sens, quoi. Donc, faut s'accrocher au pinceau et avancer. Et il y a des moments, moi, j'ai adoré les moments où Bergman, qui est un vrai, vrai grand cinéaste, donc totalement obsédé par le cinéma, a construit cette salle de cinéma sur l'île de Faro, à côté de chez eux, ou, enfin, bref. Il donne à chaque fois rendez-vous à sa fille, sa petite fille chérie, de façon très ponctuelle pour voir un film tous les jours. Donc tous les jours, ils regardaient religieusement, père et fille ou en famille, un film. Alors là, pour le coup, la famille m'a un peu choquée quand même, je dois dire. Alors, c'est pas que j'ai mis un certain. Alors ce qui m'a vraiment choquée, c'est qu'on apprenne au détour comme ça d'une phrase, c'est qu'il aurait interdit à Liv Ullman de voir ses enfants. Les deux enfants ou trois enfants qu'elle a eu précédemment avec quelqu'un d'autre, et il lui interdit de les voir et de le recevoir surtout dans leur maison, dans la maison où ils vivent. Donc là, j'ai trouvé que c'était quand même le summum de la cruauté chez un homme qui a l'air absolument adorable par ailleurs avec ses enfants, avec ses ex.
Plus cruel que son cinéma, je crois qu'il n'y a pas.
C'était vraiment le truc extrêmement cruel à faire. Et par ailleurs, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah ben voilà, vous m'avez coupé la parole, je ne sais plus. Je suis comme Bergman, j'ai bien complètement Alzheimer.
Tu faisais non là.
Oui, je faisais non parce que en fait, bon, tu as dit c'est pas le polyamour, il faut quand même rappeler 9 enfants, 6 femmes.
Bah, c'est une bonne moyenne.
Non, mais j'arrivais pas à comprendre s'ils étaient ensemble les femmes, s'ils étaient avec, un harem, le polyamour c'est ça. Ou si c'était successivement.
Mais ce qu'on avait déduit de ça, 9 enfants, 6 femmes, c'est qu'ils savaient pas être facile d'être le fils de Bergman. Alors on en avait eu
Ni la femme
Ni la femme, mais enfin bon, c'est les femmes passées. Mais
c'est plutôt la fille, si je puis me permettre.
Aussi, mais on avait eu pendant le Festival de Cannes le film de Margaret von Trotta qui revenait sur l'histoire de Bergman, et on a vu un des fils de Bergman qui se portait pas très très bien et qui racontait à quel point il était épouvantable, d'où le non. Et puis ce qu'on a là, parce que quand même, Lynn Ullman, pendant 2 ans, elle s'appelle elle-même dans le livre, elle s'appelle jamais elle-même, elle s'appelle la fille. Et pourquoi elle s'appelle la fille ? Que pendant 2 ans, ni son père ni sa mère sont foutus de lui trouver un prénom. Elle n'est pas prénommée. Donc ça démarre pas très bien. À 3 ans, il divorce, donc elle part avec la mère. Le portrait de Liv Ullman est aussi assez carabiné. On a quand même affaire à un type qui est quand même assez terrible, qui est angoissé, monomaniaque, colérique, donc d'une ponctualité maladive.
Ça, on le savait, ça.
Oui, mais là, on a le détail.
On a la preuve.
Et sur la construction que tu déplorais, moi, je la trouve assez juste pour une raison toute simple, c'est que Lynn Ullman, elle a été sacrément ballottée entre les deux. Parce que sa mère aussi était quand même une sacrée névrosée. Le polyamour, quand elle quitte Ingmar, qu'elle part aux États-Unis. Là, elle vit le polyamour, mais sans la fille, justement. Et cette pauvre gamine est quand même très, très, très ballottée. Et donc, elle a ce projet en fin de vie de le faire parler, mais il est déjà trop tard parce qu'il part un peu en travers. Alors, on a des portraits amusants aussi de Bergman, c'est-à-dire que c'était un type qui était complètement fou au volant. Il avait une Jeep rouge, il était sur son île, là, et il roulait comme un dingue, mais vraiment comme un pilote de rallye.
Ses journaux
au
port.
Oui, chercher ses journaux et tout ça, ouais. Tu parlais de son enterrement. Ce qui est extraordinaire, c'est que d'abord, il y a 2 pages très bergmaniennes sur la fille qui le décrit sur son lit de mort. C'est absolument bouleversant, c'est très beau. Donc quand il avait vu les fameuses obsèques du pape, il avait fait le tour de l'île pour aller voir les uns et les autres en disant « tu porteras mon cercueil ». Et dans son testament, il avait exigé qu'à ses obsèques ne soit toléré aucun remous émotionnel. Et je trouve que jusqu'au bout, Bergman aura été Bergman. Voilà.
Oui. Ce qui n'était pas le cas de Jean d'Ormesson.
Il
n'était pas contre les remous émotionnels.
Mais c'est extraordinaire, ça, comme formule.
Olivia.
J'ai trouvé que c'était un livre très mélancolique et très beau, d'une fille qui est éperdue d'amour pour ses parents. Et le père est un tyran domestique, et la mère est perdue. La mère est même pas une des épouses. Elle dit qu'elle est entre l'épouse numéro 4 et l'épouse numéro 5, qu'elle est la 4 et demi, qu'elle n'a même pas de place. Et c'est beaucoup trop long parce qu'elle tourne autour de son sujet. Elle a une manière très circulaire d'écrire. Et au milieu de tout ça, il y a des scènes absolument magnifiques échappées des films de Bergman. Il y en a une au début où elle est la 9e enfant de la fratrie. Et pour ses 60 ans, Bergman réunit tous les enfants et elle est assise sur un banc. Et elle attend les voitures d'où vont surgir ses frères et sœurs qu'elle ne connaît pas. Et tout d'un coup, il y en a un qui arrive, qui est le frère aîné, qui est un commandant de bord. Et il l'attrape, elle se précipite dans ses bras avec une espèce de frénésie d'amour. Et il la porte très très haut dans le ciel. Elle a le souffle coupé, je trouve que c'est vraiment très beau. Et puis, il y a le jour où elle comprend que son père va mourir et va perdre la tête, c'est que c'était un malade de l'exactitude.
Et il l'avait perdu un petit peu avant quand même, la tête.
Oui, mais il y a ce jour où ils ont rendez-vous pour aller au cinéma et il arrivait toujours à 15h-7. Et là, 15h-7 personnes, 15h personnes. Et elle dit que la seule excuse, si on n'était pas ponctuel, c'était la mort. Tellement il était vraiment dictatorial. Mmh. Et il arrive à 15h10. Et là, elle se dit, il va s'excuser, il va lui dire quelque chose. Et il ne lui dit rien, comme s'il n'était pas en retard. Et là, elle est foudroyée par l'idée que son père va mourir. Mmh. C'est assez terrible ce livre, parce que vraiment, c'est une fille qui, en permanence, attend quelque chose de ses parents qui ne vient jamais. Et en fait, elle est vraiment la mère de ses parents plutôt que leur fille.
Arnaud ?
Oui, en fait, vous l'avez tous dit, et je crois que le vrai problème de ce livre, c'est qu'il veut faire de la littérature sur Bergman. Jamais son nom n'est cité, il n'est pas dans le quatrième de couverture, il y a une photo floue sur la couverture. Donc c'est un faux vrai livre, entre guillemets, sur Bergman.
C'est, c'est ouvertement lui du début à la fin.
Non, mais c'est jamais précisé. Il n'y a pas la fille de Bergman raconte son père, jamais. Et elle veut faire de la littérature. Donc elle a une construction complètement byzantine qui n'a aucun sens et qui est ridicule, qui se veut faussement postmoderne avec des bouts d'entretien et puis on revient, personne n'y comprend rien. Il faut se plonger dans ce magma pour trouver comme un sourcier deux ou trois informations sur Bergman. Je veux dire, c'est pas du tout le livre qu'on aurait envie de lire de la part d'une fille qui peut effectivement raconter son père sans complaisance, mais qui est pas obligée de jouer à l'écrivain pour autant. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans ce livre, je trouve.
C'est le titre qui ne va pas, le registre de l'inquiétude.
Oui, ici, avec le titre.
C'est un titre traduit parce que dans la langue originelle, si j'ai bien compris, ça s'appelle Les Intranquilles.
Ah, tu lis le...
Oui, je lis couramment le suédois et le norvégien.
Ah oui.
Non, mais c'est dommage parce que
les Intranquilles... Parce que lui parlait suédois et le norvégien.
Il a mis en allemand, ça
s'appelait
te pend
Les Intranquilles, je crois. Bah, c'est
ça,
beaucoup
c'est
plus
un beau
beau,
titre.
Hein.
Bah, c'est un titre beaucoup plus juste, surtout.
Enfin, si vous voulez faire, je sais pas, pour l'éloge des grandes familles pour Noël, eh bien, vous pouvez acheter et le Jean d'Ormesson, enfin, et le Dernier Roi Soleil.
Ah, mais c'est un vrai spécial Noël,
ce soir. Voilà, et le registre de l'inquiétude. C'est dans deux jours quand même, je te rappelle. Enfin, c'est demain même. Un an et un jour, le nouveau bref roman chez Grasset de Pascal Bruckner, candidat malheureux à l'Académie française où il se présentait au fauteuil de Michel Déon. Il a été recalé le 22 novembre dernier. Tu ne le savais pas, ça, hein ?
Non, pas du tout, ça m'a complètement échappé.
Ça t'intéresse, je vois. Jésabel, qui est une jeune prof de maths, quitte la Haute-Savoie pour se rendre au Canada. Son père, qui est un ancien pasteur et horloger amateur, lui a fait jurer sur son lit de mort d'aller porter à un ami québécois la montre qu'il avait conçue, une montre qui ne donne pas l'heure, mais qu'il a détruite. Et au-dessus du Groenland, l'avion est pris dans une tempête, il se pose en urgence au nord des États-Unis. Jézabel se réfugie dans un hôtel, 13 Steel Shining, où elle s'endort pour apprendre à son réveil qu'elle n'y a pas séjourné un jour, mais un an. Et voici donc Pascal Bruckner, l'auteur de La Tentation de l'innocence, qui s'aventure dans la littérature fantastique. Est-ce qu'il a eu raison ou non ? Je vous pose la question, Arnaud.
Bah, disons que pour se présenter au fauteuil de Michel Déon, c'est peut-être pas le bon roman, hein. On est quand même assez loin des poneys sauvages, d'une espèce d'excellence littéraire, on va dire. Personnellement, Pascal Bruckner, j'ai toujours préféré le romancier et l'essayiste, qui, franchement, l'essayiste n'ayant, à mon avis, aucun intérêt. Sauf les deux premiers livres.
Et là, c'est un roman, là, je te rappelle.
Oui, mais le romancier, c'est pas le premier roman de Pascal Bruckner, loin de là. Il a toujours travaillé dans le même registre littéraire, qui est intéressant parce que c'est un registre, finalement, que très peu d'écrivains parcourent, qui est celui, on va dire, du conte cruel, du conte diabolique.
Il y avait l'homme qui rapetissait.
Les jumeaux qui voulaient pas sortir.
C'est un peu ce que fait de temps en temps Benoît Duterte aussi qui.
Oui, mais là on est quand même plus dans l'idée du.
Qui était aussi candidat au même fauteuil.
Voilà, on est quand même toujours dans l'idée du conte, d'ailleurs très proche d'une certaine sensibilité que Polanski peut avoir aussi
au cinéma. Oui, parce que là, c'est cauchemardesque hein, quand même.
Oui, c'est cauchemardesque, mais c'est aussi félinien. Il y a un côté prison pour femmes, avec des scènes, voilà, d'une espèce de d'érotisme crade. Oui, il y a comme ça.
Oui, oui, Joyeux Noël.
Il y a la femme qui allait des adultes. Voilà, c'est quand même très félinien crade, là aussi. Enfin, il y a une espèce de mélange de fantasme, mais alors surtout, en tant que lecteur, on essaye de comprendre. C'est une erreur absolue, je crois, puisqu'il y a quand même cette idée d'une montre, le temps s'arrête, elle est bloquée dans le temps, dans un hôtel aux États-Unis. Alors, j'ai cru quand
plus
même sentir...
Plus la tempête de neige, quand même.
Voilà,
plus la tempête
j'ai cru de neige. Sentir une grande critique des États-Unis dans ce livre, à tort ou à raison. Il m'a semblé que c'était un livre très, très
au dixième degré, alors.
Ah non, pas au dixième degré, j'ai vraiment l'impression, même au contraire, au premier degré, une espèce de condamnation des États-Unis, de ce qu'elles peuvent représenter dans l'imaginaire. C'est assez fort. Elle est quand même, c'est aux États-Unis que ça se passe. Qu'elle est emprisonnée, elle est traitée comme une esclave, elle doit travailler, rembourser une dette. Évidemment, l'histoire de la dette, là, comment dire, elle prend un sens politique aussi. Cette dette qu'on ne peut jamais rembourser, voilà, qui nous colle. Bah, j'essaye de comprendre, moi, ce que Pascal Bruckner a essayé de raconter. Excuse-moi, hein, tu vois, de formuler des hypothèses.
Tu vois une hypothèse macroéconomique, en fait, une lecture macroéconomique.
Mais oui, oui, il y a une dette, le temps s'est arrêté, on ne pourra pas rembourser, c'est des milliards et des milliards, qu'est-ce qu'on fait avec cette dette? Voilà, oui, je l'ai vu.
Mais quel rapport avec les femmes qui allaitent les adultes?
Mais parce que c'est dans l'hôtel, mais tu l'as lu le livre?
Oui, c'est pour ça que je te pose la question.
Oui, tu l'as lu.
Non, mais quel rapport avec la macroéconomie?
Mais je te retourne la question, Jérôme. Hein, quel rapport, à ton avis, entre les femmes qui allaitent et la dette?
Et ça, je vois pas, justement.
Ah, eh bien, tu devrais te poser la question.
Jean-Claude.
Ah, non, ce qui est intéressant, c'est que on nous présente toujours Pascal Bruckner comme philosophe. C'est qu'à un moment qu'il n'a pas vraiment philosophé. Mais là, ce livre est intéressant d'une certaine façon parce que, précisément, il philosophe sur le temps.
Et sur la dette, non?
Non, sur la dette, non, ça pour le coup, je ne l'ai pas vu. En revanche, j'ai vu ce que tu dis sur l'Amérique, oui. C'est-à-dire que l'hôtel est évidemment le réceptacle de toute la dinguerie de ce pays, de tous ces criminels, de ces faux prophètes comme ça qui sont jusqu'à la Maison Blanche. Et évidemment, l'hôtel est la métaphore idéale pour les ramasser tous ensemble. Et oui, non, c'est une métaphore sur le temps, parce que tout à l'heure, tu nous demandais s'il avait eu raison de passer du réalisme au fantastique dans le même livre. Ce qui est intéressant, c'est le moment où il le fait. Et il le fait au moment où son héroïne dort.
Oui.
Alors c'est précisément le moment, c'est ce sas où l'inconscient reprend le pouvoir, et c'est aussi le
merci
seul...
Merci du renseignement.
Oui, mais il faut rappeler les choses, il faut les rappeler. C'est aussi le seul moment où tu ne peux pas consulter ta montre.
Bah oui, 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 oui. Et si tu dors, non, oui,
Non, mais attendez, on a affaire à un philosophe, on y va, quoi.
Et j'ai donc... rien compris à ce que tu dis.
Ah mais si.
Quand tu dors, tu ne peux pas consulter ta montre.
Eh ben non.
Oui.
Eh ben non, et du coup...
C'est intéressant d'écouter
le
masque qu'elle a pris.
Oui, oui, oui. Parce que du coup, elle s'est endormie normalement, et quand elle se réveille, tout a changé.
Oui.
C'est-à-dire qu'elle a cru dormir... ce que vous avez raconté, quoi. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est la généalogie de cette famille. C'est-à-dire que les toquées des toquantes, ça fait un moment, parce que la grand-mère aussi, elle avait plein de trucs. Et la mère de l'héroïne avait des valises devant son lit tout le temps.
Et n'oublions pas qu'ils sont protestants tous, hein. Ça, c'est important.
Aussi, oui, bah, j'allais y venir, mais
comme, la croix, ça, c'est un détail, ça leur échappe jamais.
Comme,
quand il y a des protestants,
comme chez Nulman,
j'allais y venir. Et alors, la mère, elle fait une collection de valises, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer, et elle a même sa valise pour partir au cimetière, et évidemment la mort vient la saisir, la valise est prête, et du coup elle se fait enterrer avec la valise. Mais la valise, c'est aussi une métaphore du temps. C'est-à-dire que tu contiens dans ta valise un bout de temps.
J'aurais jamais dû inscrire ce livre ce soir au programme.
Mais oui, mais c'est un peu de ta faute, parce qu'on aurait pu parler des livres de Noël. Et là, tu nous obliges à un petit peu, voilà. Et donc moi je trouve ça intéressant.
C'est pas un livre de Noël. Bah écoutez, moi,
alors,
gars,
Nelly.
Alors, je suis presque contente de pas l'avoir lu. J'avoue ma cancrerie. Ou alors presque je le regrette.
Tu l'as ouvert quand même.
Parce que, alors je l'ai ouvert, j'ai vu cette histoire, je trouvais que ça allait un peu en ronronnant, c'était un peu plan-plan. Et puis j'ai regardé la quatrième de couvre, je sais qu'il faut jamais faire ça, c'est très mal. Et puis j'ai vu que c'était une histoire de montre magique. Ouais. Fantastique, métaphysique, existentielle, je ne sais quoi, philosophique.
Et là, je me suis dit, oh, je vais peut-être le garder pour la fin, celui-là. Et je suis passée au Patti Smith, je suis passée au gendarme, enfin, au Sophie des déserts, et je l'ai complètement oublié. Donc, pardon.
En fait, ta montre, c'est arrêté.
Ma montre,
quoi.
Je dormais, je me
tu
suis endormie.
Tu dormais.
Et comme dirait Jean-Claude, si bien, nous ne pouvons pas consulter notre montre quand nous dormons.
Olivia, tu as lu ce grand livre sur la dette ?
Oui, je l'ai lu. Sur le papier, moi, j'ai commencé par la quatrième de couverture. Comme Nelly, c'est absolument tout ce que je déteste, ce livre. Et je l'ai adoré. Mais alors, pas du tout pour les raisons des garçons. J'ai rien compris à ce qu'ils ont dit, là, la dette. Parce que j'ai trouvé que c'était comme une sorte de film catastrophe et raconté avec beaucoup de drôlerie, ce que vous oubliez de raconter le début. Alors j'ai un petit conseil, si vous comptez prendre l'avion pour vos vacances de Noël, ne lisez pas ce livre, parce que ça commence par une scène dans l'avion qui est épouvantable, à ne plus jamais prendre l'avion, et très drôle. Vous savez, quand vous allez, avant de décoller, vous avez toujours l'hôtesse qui doit vous faire les démonstrations des consignes de sécurité.
Oui.
Et vous avez déjà vu que personne n'écoute les consignes. Et là, c'est une hôtesse qui devient folle parce que personne ne l'écoute. Et du coup, elle se met à se déshabiller. Donc elle commence, elle enlève son pull et... Jézabel, l'héroïne, elle se dit où est-ce qu'elle va s'arrêter. Elle ne s'arrête pas. Donc elle est en soutien-gorge, elle est en collant et personne ne la voit. Ce qui fait qu'après, elle va se venger parce qu'il y a une énorme tempête. L'avion est pris dans une tempête. Les gens ont très très peur. Et là, elle se venge, elle est odieuse. Donc les gens disent on va mourir. Elle dit oui, on va peut-être mourir. Les gens lui disent il va y avoir un accident, c'est probable. Donc tout le monde devient fou dans l'avion. Je vous promets, ces 15 pages sont géniales, mais surtout prenez le train. Ça, c'est la première chose. Après, c'est une sorte de mélange de Fellini, Wes Anderson, un livre d'un Hongrois qui s'appelait Épépé, qui reposait un peu, oui, Épépé. Un livre qui était vachement bien, d'un type qui était pris comme ça dans une tempête et qui arrivait dans un endroit où il comprenait
rien. Vous avez lu Épépé, vous les... Non.
Ça fait très très peur, c'est absolument horrible, c'est aussi un peu Nikita de Luc Besson, je trouve, mais ça marche très bien.
Ça, c'est pas un compliment. Forcément.
Si, moi j'ai bien aimé Nikita. Et tout le livre, vous vous dites comment il va retomber sur ses pieds. Parce que le problème de ces livres qui deviennent fantastiques, c'est comment l'auteur va résoudre son énigme. Et je trouve qu'il le fait vachement bien.
Non,
ça marche bien.
On est assez d'accord. Nikita, d'une certaine manière, peut être vu comme un film sur la dette aussi.
Non,
là,
honnêtement,
le rapport.
C'est par exemple, c'est vachement mieux que Murakami.
Allez, c'est un
là,
an...
on va se prendre encore 15
ouais.
lettres.
Oui.
C'est plus amusant.
Ouais,
un an et un jour,
c'est plus drôle.
C'est Pascal Bruckner et c'est chez Grasset. Allez, Les Cigognes sont immortelles, le nouveau roman au seuil d'Alain Mabankou, né, je vous le rappelle, à Pointe-Noire, l'auteur des Mémoires de Porc-Épic et de Vercassé. Il raconte avec les yeux de l'adolescent qu'il était les trois jours de crise et de confusion traversés par la République du Congo en mars 1977, quand le camarade président Marien Ngouabi est assassiné à Brazzaville et qu'un comité militaire prend le pouvoir. Roman où Mabankou mêle, comme à son habitude, le pittoresque et la tragédie, l'histoire d'une famille et la grande histoire de son pays depuis le colonialisme jusqu'à la décolonisation. Quant au titre, eh ben, il fait référence à la chanson soviétique qu'on enseignait au collège et à coup de fouet et que connaît par cœur Arnaud Vivian. Nous sommes les cigognes blanches de la révolution socialiste congolaise. Je me demande même si tu ne le citais pas dans ton livre sur le communisme. Plus sérieusement, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, Alain Mabankou est considéré comme un dissident en exil par le régime de l'actuel président Sassou Nguesso. Un peu rapidement, parce que je voudrais qu'on évoque aussi le Patti Smith. Arnaud ?
J'ai un problème avec les livres, et de plus en plus, qui sont écrits à regard d'enfant. Lorsque ce sont des livres destinés aux enfants, qui soient écrits à regard d'enfant, je comprends.
Sauf que genre, il était vraiment enfant.
Oui, il était réellement enfant. Mais en même temps, si vous voulez, pour moi, c'est quand même un tour de passe-passe qui fait que, du coup, le livre est drôle, même parfois très drôle. Mais du coup, c'est aussi sa limite d'être écrit du point de vue d'un enfant, de l'enfant qu'il a effectivement été, puisque il était enfant à cette époque. Mais il n'en reste pas moins que je crois qu'il y avait une manière plus subtile d'écrire ce livre et de le rendre plus fort, parce que ce qu'il raconte est très très intéressant. C'est toute l'histoire de son pays
de la dette de son pays qui est
et de la dette. Oui, ça on peut parler. Ça, de la dette africaine, ça c'est sûr que là, si on rentre dans le sujet, c'est un très beau livre d'histoire. Mais voilà, je trouve. Que Mabankou devrait assumer sa position d'adulte.
Olivia ?
Moi, je trouve ça très beau et très intéressant. Je trouve que l'ingénuité pour raconter la tragédie de la guerre, ça marche bien. Et qu'il a le sens vraiment de la scène. Sans vous raconter la fin, il y a l'avant-dernier chapitre, ça vous coupe le souffle. Cet enfant de 13 ans qui court pour aller chercher sa mère à la maison d'arrêt, c'est comme une sorte d'immense travelling. Il court, et tous ses souvenirs d'enfance remontent à sa mémoire, comment il est né, comment son père est parti le jour de sa naissance, comment il a été sauvé par Papa Roger. Moi, je trouve ça toujours très, très bien.
Donc, tu le mets, toi, sous le sapin de Noël, et Nelly ?
Oui, pourquoi pas, je peux le mettre aussi sous le sapin de Noël. C'est le mot sapin de Noël, je sais pas, tout d'un coup, ça m'angoisse. Je crois que ça angoisse beaucoup de monde, en fait. Je sais pas si c'est le sapin ou la famille autour. Enfin bref, c'est un long débat. Non, j'aurais pas dû dire un truc pareil, le 23.
Joyeux Noël,
tout le monde va se pendre, ou va foutre la tête dans le four.
Surtout, j'espère que ta famille ne t'écoute pas.
Non, je ne crois pas qu'elle m'écoute.
T'as acheté la dinde ?
Je crois qu'ils sont tous plus ou moins végétariens maintenant dans ma famille. Donc la dinde, ce sera moi. C'est facile, je sais, je ne pouvais pas résister. Non, je suis assez d'accord avec Arnaud. C'est-à-dire le truc de ma banque, mais depuis longtemps, même quand ce n'est pas un enfant ou un jeune ado qui s'exprime, il y a toujours ce côté un peu naïf qui fait que c'est assez drôle, c'est truculent. C'est là, par exemple, il y a une page sur Pompidou, sur ce qu'évoque le nom de Pompidou pour cet enfant qui est hilarante. Et c'est vrai que tout d'un coup, on y pense, on se dit, mais ça s'appelait Pompidou, c'est quand même très, très drôle et très, très rigolo, et surtout pour un enfant assez, assez marrant. Mais à part ça, je pense qu'en effet, il gagnerait peut-être, surtout pour ce sujet-là, à écrire quelque chose de beaucoup plus adulte, finalement. Ouais, parce que finalement, on peut l'avoir vécu comme enfant et aujourd'hui, l'écrire...
Le sujet et la période sont graves.
Hein. Je trouve que absolument. Et je trouve que ça aurait été presque nécessaire et salutaire de le faire. C'est un sujet hyper important.
Jean-Claude.
Moi, je suis du côté d'Olivia.
Merci, Jean-Claude.
Oui. Comme toujours.
Nous ferons la dinde ensemble.
Mais la plupart du temps, oui. Moi, je ne lui reprocherais pas du tout de parler de ça à hauteur d'enfant. Enfin, je veux dire, il l'a vécu. Ça, c'est ce qui donne précisément la force à ce texte, à la façon dont il l'écrit. Je trouve que c'est un roman réjouissant, je trouve que c'est un roman tragique, je trouve que c'est un roman initiatique. C'est bourré de trouvailles extraordinaires, langagières, lexicales, de propositions littéraires que je trouve très très bien. Il y a une gouaille tout le temps amusée. Moi j'aime beaucoup ça parce que précisément la période était difficile, était pas simple, même pour sa famille, puisqu'il y a quelque chose d'extrêmement tragique à l'intérieur de cette famille à la suite de ce coup d'État. Et je trouve qu'il est toujours à la bonne distance, précisément en étant à sa position d'enfant. Et puis une dernière chose, on n'a pas assez noté que Papa Roger, il est comme Jean d'Ormesson.
Pardon ?
Papa
oui.
Roger.
Comme
Jean d'Ormesson. Oh là là, oui. Il y a Maman Pauline et Maman Martine.
Oui, mais avec moins de moyens.
Oui, ça c'est vrai.
Les cigognes sont immortelles, c'est au seuil et c'est à la main. Bon coup, et on termine. Allez, on se dépêche avec Dévotion, traduit chez Gallimard par Nicolas Richard. C'est après l'énorme succès de Just Kids, où elle racontait, je vous rappelle, sa jeunesse new-yorkaise, le nouveau livre de Patti Smith. Une sorte de journal intime, mais sans date d'ailleurs, où la chanteuse, la glaneuse, comme elle s'appelle, transcrit ses voyages, ses lectures, ses impressions. Elle va à 7, sur la tombe de Paul Valéry, à Lourmarin, chez la fille d'Albert Camus. Elle déambule dans le Paris de Modiano. Elle rend visite à Antoine Gallimard. Elle est très Gallimard, hein, dans ce livre. Hein.
C'est son éditeur.
Elle cherche en Angleterre le cimetière où est enterrée la philosophe Simone Veil. Et à la fin, elle se demande pourquoi écrivons-nous. Et elle répond, parce que nous ne pouvons pas simplement vivre. En prime, quelques pages manuscrites, des facsimilés en tout cas, et quelques photos en noir et blanc, Dévotion. Jean-Claude ?
Pas moi en tout cas. Non, c'est un livre. Bon, voilà, c'est un livre avec des belles sensations. C'est vrai que lire du Modiano, c'est presque comme écrire. En effet, c'est un livre de bons réflexes. C'est normal, je trouve, d'être paniqué à la perspective de monter dans un avion sans avoir un livre. Ça, je suis d'accord.
Surtout si c'est un livre de Bruckner.
Oui, sa nostalgie de Paris est très très jolie, c'est une littérature de sensations, elle est accompagnée par les morts, elle fait le tour des cimetières, elle dit des choses assez belles là-dessus, elle a aussi des passages très obscurs, ça pourrait être pour le coup chez Pascal Bruckner, le destin a une main mais n'est pas la main. Oui. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est un livre en trois temps et qu'il y a un gros morceau au milieu.
Qui est un petit livre d'ailleurs.
Un gros morceau au milieu qui est une nouvelle de pure fiction, là, à partir du patinage et tout ça. Et je dois dire que c'est une histoire quand même très très légère. Et l'impression que m'a donné ce livre à la fin, c'est que c'est un peu quand, comme quand l'hiver est chassé par le printemps, c'est un peu une sorte de flocon de littérature, quoi. C'est, ouais. Voilà.
Il faut dire aussi que voilà, on a tous été quand même très marqués par Just Kids et oui. Que ça semble être un tout petit peu ajouté à ce qu'elle a écrit de plus important, Nelly.
Non, alors entre les deux, il y a M Train que moi j'avais absolument adoré.
C'était
magnifique. Et là, je trouve que c'est presque comme un chapitre de M Train. C'est comme une sorte d'annexe. En fait, moi, même si c'est pas, c'est vrai que c'est pas le meilleur livre de Patti Smith, je le trouve intéressant parce que maintenant je la trouve intéressante. Je trouve sa démarche intéressante, cette façon de pas vraiment à la fois d'honorer la littérature, les écrivains, de courir les cimetières, d'être dans une espèce de mystique de la littérature et des écrivains, et en même temps de la traiter elle à son niveau comme quelque chose qui reste quelque chose de, enfin, je dirais pas sacré, mais parce qu'on ne peut pas toucher le sacré, mais quelque chose qu'on touche, justement, qui est essentiel dans une vie humaine, la sienne, et en même temps qui est très quotidienne et qui est très un peu humble. Voilà. Et j'aime beaucoup cette façon qu'elle a, dans le texte, elle recommence, où elle mêle des petites bribes de son quotidien à quelque chose d'un peu plus vaste, qui est son passage, pour une fois, à la fiction. Alors, cela dit, en entretien, j'ai fait un grand entretien avec elle, elle me disait qu'elle avait passé 15 ans à écrire de la fiction qu'elle ne voulait pas publier. Elle avait écrit des romans qu'elle ne voulait pas publier. Mais ce qu'on oublie là de dire, c'est que ce petit livre, en fait, est né à la suite d'une commande d'une université américaine, je crois que c'est Yale, lui demandant c'est quoi l'inspiration. Et donc, au lieu d'écrire un discours, elle écrit une fiction qu'elle enchasse dans son journal intime et elle le livre comme une forme de réponse à cette question. Pas fondamentalement comme un vrai livre, plutôt comme une forme, sa réponse à cette question.
C'est présenté quand même comme un vrai livre.
Oui, c'est un vrai livre, peut-être mineur par rapport à son œuvre, mais absolument merveilleux, parce que je trouve qu'il est porté par...
Finalement, tu as beaucoup aimé mon programme ce soir.
Oui, je crois que c'est l'esprit de Noël, moi. Ou alors je suis devenue une dinde, comme Nelly.
On est des dindes, Olivia, qu'est-ce que tu veux que je dise ? On est dévoués à Noël.
Nous sommes les voix des Aristochats. Je trouve que c'est merveilleux parce que c'est un livre qui respire ce qui manque peut-être le plus à notre époque, c'est-à-dire l'enthousiasme. Il y a des petits passages où elle se souvient la première fois où elle est venue à Paris avec sa sœur, et juste le fait de marcher dans Saint-Germain-des-Prés, rue Visconti, elle faisait des sauts de joie. Il y a une photo d'elle qui saute de joie dans la rue. C'est une femme qui vit avec ses fantômes. Il y a le petit passage où elle va chercher la tombe de la philosophe Simone Veil en Angleterre. C'est le jour de l'anniversaire de son frère mort. Elle ne la trouve pas, elle est perdue.
Elle a du mal à la trouver.
Il pleut, elle ne sait pas. Et tout d'un coup, elle se met à parler à son frère mort. Elle lui dit, c'est le jour de ton anniversaire. Aide-moi à trouver la tombe de Simone Veil. Et évidemment, elle va la trouver. Moi, je trouve que c'est merveilleux. La manière dont elle est aussi chez Gallimard. Et elle imagine qu'il y avait Jean Genet, Camus, quand elle est dans la maison de Camus. Oui, c'est un livre d'une femme qui pense qu'il n'y a rien de plus sacré que la littérature.
Oui, qui est, Arnaud, et qui est encore enthousiaste.
Moi, j'aime bien.
Encore
elle enthousiaste. Est enthousiaste.
Voilà. Le problème, là, c'est que quelques fragments de journal intime, une novella sur une patineuse pas terrible, quelques photos, un poème. C'est comme ça qu'on compose un plateau de fruits de mer, mais pas un livre, vous voyez.
Très Noël.
Et tu nous mettras 12 bulots, alors des crevettes grises, 3 moules et non mais voilà.
C'est, et
mais
pas
après,
ça,
ça vous fait un livre objet. C'est-à-dire que là, je trouve qu'on est un petit peu dans la fabrication du livre objet.
On tire un peu à la ligne là, oui.
Oui, du livre objet très mignon, le petit catafalque avec 2-3 photos qui s'appelle Dévotion, le livre de messe quoi. Donc, alors, effectivement, il y a un côté glaneuse. Agnès Varda, mais attention, ça risque de finir mal, on fait du camping-car avec JR à la fin, quoi. Donc, attention, hein. Voilà.
Voilà.
Eh bien, c'était à vous de choisir si vous voulez ou pas offrir Dévotion chez Gallimard de Patti Smith pour Noël. Allez, un conseil pour nos auditeurs et on va commencer avec Arnaud.
Alors, il y a un livre assez volumineux, qui doit faire à peu près 600 ou 800 pages, je ne sais plus exactement, dans lequel je ne cesse de plonger, j'ai quand même pas le temps non plus, mais j'y replonge comme ça fréquemment. C'est un livre qui s'appelle « Dialectique de la pop » d'Agnès Guéraud. Agnès Guéraud est une philosophe spécialiste d'Adorno, et c'est aussi une chanteuse d'un groupe qui s'appelle La Féline, un groupe de rock, et donc elle a écrit un livre qui est une philosophie de la pop musique. c'est spécialiste d'Adorno, et c'est merveilleux parce qu'elle connaît extrêmement bien la pop, extrêmement bien la philosophie. Il faut savoir que Adorno
c'est lisible
était
ou pas. C'est lisible ou pas.
C'est très très lisible, et surtout, je veux dire, comme elle cite énormément d'exemples, on est plongé dans une discothèque. À un moment, elle parle de la chanson Mon Légionnaire, reprise par Gainsbourg, et elle dit quelque chose de très intéressant sur le changement de langue. C'est, il ne roule plus les R comme dans la version originale, et que l'idée de la pop, là, il y a une espèce de transformation de la langue. Il y a plein d'idées comme ça qui sont très belles et qui vous renvoient à tout ce que vous avez écouté quand vous aimez la pop musique. Donc, si vous aimez philosophie, pop musique, dialectique de la pop, d'Agnès Guéraud, c'est aux éditions de La Découverte. Voilà.
La Découverte, le conseil d'Olivia.
Le petit livre de Nathalie Léger, La robe blanche, que je n'avais pas lu.
C'est une merveille.
Et qui est terrible, merveilleux.
Qui est terrible en même temps.
Oui, c'est pas tellement Noël, mais en même temps, c'est un livre sur le sacré, puisqu'elle part sur les traces d'une performeuse artistique qui était une Italienne qui s'appelait Pippa Bacca et qui avait décidé de traverser toute l'Europe avec une robe de mariée en autostop.
Sans jamais la quitter.
Sans jamais quitter sa robe. Et dans tous les lieux où elle arrivait, elle allait laver les pieds des sages-femmes. Et puis elle a fini malheureusement au sud d'Istanbul, violée et étranglée. Et Nathalie Léger
sans qu'on retrouve son corps.
La fin est terrible.
Terrible.
Mais elle part à la recherche de cette femme pour savoir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'elle a voulu faire, est-ce qu'on peut sauver le monde par une performance. Et en même temps, c'est un livre aussi sur sa mère. Moi, je trouve que Nathalie Léger est la plus grande écrivaine de la mélancolie.
Et un livre très bref, mais d'une densité incroyable. Je suis absolument d'accord avec toi. Et c'est chez P.O.L. Mon conseil, c'est un gros livre. Alors ça, c'est idéal pour Noël. C'est George Sand à Nohant, d'une historienne qui s'appelle Michèle Perrault, grande historienne au Seuil, et qui est un formidable inventaire. J'ai pensé aux inventaires un peu à la Pérec, de la grande, de la très belle maison dans le Berry, de où Sand écrivait, jardinait, jouait son théâtre, recevait bien sûr Chopin, Delacroix, Dumas, Flaubert, Balzac, où aussi elle montait une jument qu'elle adorait qui s'appelait Colette. Bon, vous pouvez pas comprendre. Et enfin, c'est un très beau portrait de George Sand, baronne, paysanne, socialiste, botaniste, utopiste, qui répétait rien pour la gloriole, tout pour le plaisir de vivre. Très beau livre. Et si vous voulez passer quelques jours sans quitter chez vous à Nohant, vous lisez George Sand à Nohant. Et c'est au Seuil, Nelly.
Alors, puisque vous conseillez plein de livres, là, pour le sapin, de demain soir, à mettre dans les chaussures, les chaussettes. Moi, j'ai envie de vous dire deux mots. On peut pas trop en parler déjà, mais d'un livre qu'on lira en janvier, donc pour se préparer, pour se donner de l'espoir, pour surmonter la dinde, les dindes de Noël. C'est le nouveau Michel Houellebecq, Sérotonine, qui est du pur Houellebecq, qui est drôle, qui est sombre, qui est à mon sens le plus crépusculaire de Houellebecq. Et Dieu sait qu'il n'est pas connu pour être rose,
non,
toujours.
Non, c'est pas Danny Boone.
Et là, voilà, c'est l'histoire d'un narrateur très houellebecquien qui a besoin de prendre des suppléments de sérotonine parce qu'il est dépressif et qui va parcourir et son passé et la province française. Voilà, j'en dis pas plus, mais ça m'a beaucoup plu. C'est du Houellebecq qui renoue avec sa veine plutôt romantique.
Merci de cette avant-première.
Le 4 janvier,
on en parlera au Masque et la Plume dès le premier masque littéraire de l'année prochaine. Jean-Claude, pour finir.
Alors moi, c'est un petit livre. C'est le premier livre d'un auteur qui a 54 ans. Ça s'appelle L'Inconnu. Sa mère est morte en 1973, à 36 ans, elle a été renversée par une voiture, il était enfant, c'est l'institutrice qui le lui a appris. Et depuis, il n'a cessé toute sa vie d'essayer de la trouver, de la chercher. En fait, elle est partout, c'est-à-dire, elle est totalement dans sa vie. C'est un livre absolument extraordinaire. Il faudrait parler de la beauté de chaque page, de chaque phrase,
chaque mot. Moi, je l'ai lu aussi, c'est de la poésie pure.
Mais c'était stupéfiant,
absolument.
La beauté de ce livre. C'est son prodige, c'est de rester mystérieux et toujours éblouissant, lumineux, comme une leçon de ténèbres. C'est d'une beauté, enfin je vous le recommande, voilà, c'est un petit livre, 90.
Mais tu n'as pas dit son nom, hein.
Alors, il s'appelle Cyril Roger Lacan,
et c'est le
livre s'appelle L'Inconnu, c'est chez Grasset, et c'est un des plus beaux livres que j'ai lu cette année.
Et c'est la famille de Jacques Lacan, il faut quand même
la
le dire.
La famille de Jacques Lacan, puisque la mère de Cyril Roger Lacan était la fille aînée de Jacques Lacan, mais il ne le dit jamais. C'est jamais dit, c'est vraiment un fils et sa mère, quoi, voilà. Et cet inconnu, il la cherche partout. Enfin, c'est très, 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 très beau. Voilà.
Tous ces conseils, vous les trouvez, sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Nelly. Caprielion, Olivia de Lamberterie, Jean-Claude Raspienjas. et Arnaud Vivian pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam ce soir au Théâtre de l'Alliance Française à la Technique. Et je les remercie, Marie Le Peintre, Nicolas Depagraf ainsi que Pierre-Henri. La réalisation était signée Xavier Pestugia. Attention, le prochain enregistrement du Masque et la Plume aura lieu également le jeudi 10 janvier dans ce même théâtre de l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour deux émissions, l'une consacrée au livre, où on parlera précisément du livre de Michel Houellebecq, et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parle de films, et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.